Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens. Bonjour à toutes et à tous, ici Jeanne pour votre émission Info Club Sandwich. En cette fin de semaine, je vous propose de découvrir ensemble une partie de la programmation de la 44e édition du festival La Rue est à Amiens, ce festival d'art de rue porté par le Cirque Jules Verne, qui commencera donc en effet lundi prochain et se poursuivra tout au long de la semaine. Au programme donc 5 focus, 26 compagnies et 147 représentations. À compter d'aujourd'hui et jusqu'au milieu de semaine prochaine, nous allons donc consacrer l'ensemble de nos émissions quotidiennes à ce grand événement d'art de rue. Nous présenterons successivement dans chacune d'entre elles un membre de l'équipe organisatrice et une compagnie qui se produira au cours de la semaine. Et pour commencer dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir justement Philippe Macrae, donc directeur artistique du festival. Bonjour.
Bonjour.
La rue est à Amiens a été réadaptée cette année afin de permettre son bon déroulement malgré les contraintes sanitaires. Ça n'aura pas lieu donc sur un week-end, mais tout au long de la semaine. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous pendant ces quelques mois de préparation du festival? Comment vous êtes arrivé à cette formule-là de la rue est à Amiens étalée sur une semaine? Et est-ce qu'il y a eu des moments de doute où vous vous êtes demandé est-ce que ça pourrait avoir lieu ou non?
Bah oui, il y a eu des moments de doute. Bah disons que jusqu'au mois de mars, nous avons travaillé sur l'édition comme pour le mois de juin. C'est-à-dire l'édition devait se dérouler du 11 au 13 juin. Et fin mars, on s'est dit, oh là là, ça sent pas très bon là, l'épidémie, ça continue. Et au mois de juin, est-ce que ça sera levé, etc. Et puis... on a fait des réunions voilà, avec des responsables de la ville et une réunion en préfecture. Et là, on s'est dit, ça va pas le faire en juin et on va décaler, on va reporter l'événement. Et contrairement à l'année dernière, on avait reporté l'événement en septembre. Là, on s'est dit, on va le reporter en juillet au début des vacances. Et en fait, on a bien fait puisque ben voilà, l'épidémie a continué de progresser, voilà, etc. Et donc, même après, oui, effectivement, en début avril, on a décidé donc de reporter le festival début juillet. On a encore eu des doutes jusqu'à à peu près, on va dire, jusque quasiment la mi-mai, à peu près. On avait encore des doutes, est-ce que ça allait tenir en fonction des protocoles, etc. Si les protocoles sanitaires avaient été trop stricts en termes d'accueil public, etc., à un moment donné, on aurait dû se rendre à l'évidence et sans doute annuler l'événement. Bien heureusement pour tout le monde, le public, les artistes, etc., ce n'est pas le cas. On va pouvoir tenir donc cette 44e édition, fait exceptionnel, d'un lundi à un vendredi. Et ça, c'est aussi un choix et un non-choix. Un choix dans le sens où on s'est dit en même temps de ne pas le faire le week-end, ça va concentrer beaucoup moins de public et donc moins de risques au niveau sanitaire et au niveau de l'accueil public. Parce que si on avait été sur un week-end, on aurait peut-être été obligé de contrôler les jauges des spectacles, ce qui ne sera pas le cas dans la semaine. Et l'autre fait qui nous a amené du lundi au vendredi, c'est qu'on perdait toute notre programmation. Les compagnies étaient plus libres sur les week-ends. On perdait 80-90% de la programmation. Et refaire une programmation en deux mois, c'est impossible. Donc on s'est dit, bon, on va le faire en semaine, on va changer le format. Et ça a été très bien accueilli voilà, dans les discussions avec la ville d'Amiens et la préfecture. Ils nous ont dit, c'est un bon choix, c'est bien par rapport au protocole sanitaire. Et donc, voilà comment on a avancé et remonté l'événement, on va dire, puisque... fin mars, tout était calé pour le mois de juin. Donc, ça a été un gros travail à reprendre. Mais voilà, nous y sommes.
Donc, c'est à partir de lundi prochain, du lundi 5 jusqu'au vendredi 9, tout au long de la semaine. Au niveau de la programmation du festival La Rue est à Amiens, c'est extrêmement hétéroclite. On a de la danse, du cirque, du théâtre, de la musique, des arts forains. L'idée, c'est de brasser les arts de rue au sens très large.
Les arts de rue, mais même au sens plus large du spectacle vivant et des pratiques artistiques existantes. L'idée... la programmation telle qu'on la travaille depuis longtemps, depuis de nombreuses années, c'est pouvoir présenter la diversité du spectacle vivant en espace public. Donc effectivement, comme vous le disiez, des spectacles de danse, de cirque, de théâtre, des performances, de la musique. Parce que une des particularités, on va dire quand même, des arts de la rue, c'est que ça touche un peu à tous les domaines artistiques, y compris les arts visuels, etc. Donc voilà, nous, la manière dont on travaille notre programmation, c'est à travers 5 focus, donc le cirque, la danse, le théâtre, les déambulations et ce qu'on appelle les arts forains, qui sont voilà, là, très spécifiques aux arts de la rue. C'est de montrer un peu la diversité de la création qui existe pour l'espace public, pour les arts de la rue.
Et donc vous accueillez 26 compagnies, c'est ça ?
26
compagnies. À peu près 150 artistes.
Oui, à peu près, oui.
sur l'ensemble de cette semaine-là. Oui. Vous avez découpé en 5 focus, du coup, différents le, le festival. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir rapidement sur ces différents focus? Il y a le cirque pour l'espace public, Déambulons, Haut et Fort, la place des Forains et Corps et Âme. Comment ça s'est découpé tout ça?
Mais justement, donc on en revient un peu à cette idée de présenter la diversité de ce qui existe, de la création pour l'espace public. Et pour nous, c'est donner des repères au public aussi. Voilà, on a dans le programme, c'est découpé en focus, donc en chapitres, le cirque pour l'espace public. Donc là, on présente des spectacles de cirque spécifiques à l'espace public. Hein, ce n'est pas des spectacles qu'on peut voir dans des salles ou des chapiteaux. Sur Haut et Fort, donc là, c'est la parole, donc le théâtre de rue. Hein, c'est pareil, ce sont toujours des spectacles conçu pour l'espace public, pour la rue. Ce n'est pas des spectacles qui jouent dans des théâtres l'hiver et l'été dehors. Nous, dans notre programmation, c'est un des aspects ça, qui nous tient à cœur, c'est programmer des spectacles vraiment conçus pour l'espace public. Est-ce que le rapport n'est pas le même au public? Bien sûr, à l'espace.
Il y a des déambulations.
Il y a des déambulations, voilà. Après, vous parliez de corps et âme. Alors là, bon, corps et âme, c'est quoi? Ça peut paraître un peu bizarre ou un peu poétique, mais en fait, c'est la place du corps, donc la danse dans l'espace public. Ensuite, les déambulons, ce sont des petites déambulations dans la ville qui invitent le public à se promener dans la ville ou à rencontrer par hasard des propositions artistiques. D'ailleurs, plusieurs spectacles, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'horaire. C'est des spectacles qui vont venir à la rencontre du public par surprise, on va dire. On appelle ça des impromptus. C'est comme ça qu'on les nomme dans le programme. Et après, les arts forains, ça c'est très spécifique aux arts de la rue. Hein. Parce que les arts forains, c'est quoi? Ce sont des entresorts forains ou des propositions de petites baraques foraines telles qu'on pouvait imaginer au 19e siècle ou au 20e siècle. Donc ce sont des entresorts un peu mystérieux, magiques ou poétiques. Parfois certaines années ou peut-être même cette année, dans l'esprit un peu frics, on va présenter des choses bizarres. Donc on a des bonimenteurs devant ces baraques foraines, ces petites tentes qui, mesdames et messieurs, approchez, vous allez découvrir l'incroyable, etc. Et là, le public rentre dans un espace et ce sont des petites formes qui durent quelques minutes, parfois pour une personne, parfois pour 5, pour 10. Voilà, ce sont de toutes petites formes qui tournent en boucle comme ça tout au long de la journée. Et les arts forains, la nouveauté cette année, d'habitude, on les présente place Longueville, devant le cirque Jules Verne. Cette année, on les a mis dans le parc de l'Évêché. Et on retrouvera également la guinguette, c'est-à-dire l'espace restauration, buvette, lieu un peu festif et convivial du festival qui d'habitude est aussi à côté du cirque. Là, on a tout mis dans le parc de l'Évêché pour des raisons de programmation. Parce que là, comme on est en semaine, bloquer la circulation sur les boulevards, c'est un peu compliqué. On s'est dit, on va aller ailleurs. Et puis s'il fait chaud, bien que la météo pour l'instant, s'il fait chaud, moi, dans le parc de l'Évêché, c'est ombragé. Parce que là, sur la place Longueville, s'il y avait de fortes chaleurs, ça serait compliqué pour les artistes et le public.
Donc la rue est à Amiens, ça commence lundi prochain, le 5 juillet, et ça se poursuit jusqu'au vendredi 9. L'idée tout au long de ce festival, c'est d'interroger en fait, d'une certaine façon, à vous entendre, notre rapport à l'espace public aussi et comment est-ce qu'on investit ces ruelles amiénoises pour en faire autre chose, pour proposer autre chose, découvrir autre chose.
Oui, c'est ça aussi, c'est l'idée des arts de la rue depuis plus de 40 ans aussi. Hein. C'est comment on investit aussi l'espace public et comment le public, les habitants vont redécouvrir aussi leur ville sous un autre regard. Parce qu'effectivement, dommage pour les automobilistes, mais on coupe quand même un certain nombre de rues, de parkings. Donc la ville devient, le centre-ville au sens large, devient une espèce de scène artistique géante dans la ville, où on retrouve le droit du piéton quelque part. Et ça permet aussi, je pense, en tout cas pour moi, de redécouvrir la ville aussi sous un autre angle. Et ça, c'est l'idée, comment on réinvestit l'espace public et comment on y amène une parole, alors une parole artistique, mais aussi parfois une parole, parce qu'un certain nombre de spectacles, on a des spectacles divertissants, mais on a aussi des spectacles qui parlent de notre société, d'aujourd'hui, d'hier, de demain, qui posent des questions philosophiques, poétiques, politiques parfois. C'est ça aussi les arts de la rue.
Cette année, vous avez mis en place un partenariat particulier avec un certain nombre de compagnies des Pays-Bas, avec l'ambassade en fait, vous avez établi un partenariat.
Oui, on s'est dit, dans la programmation, on va faire un petit coup de projecteur sur les Pays-Bas, parce que moi je vais assez régulièrement sur des festivals aux Pays-Bas et j'y vois des choses très très intéressantes qui tournent peu en France. Et on s'est dit, ben, on va refaire, parce qu'en 2017, on avait déjà fait ça. On va refaire un petit coup de projecteur sur la création d'espaces publics d'art de la rue des Pays-Bas. Et donc, ce coup de projecteur est soutenu effectivement financièrement par l'ambassade des Pays-Bas à Paris, avec qui on avait déjà travaillé il y a 5 ans sur un projet similaire. Donc, ben, j'invite les Amiénois, les spectateurs, à découvrir ces formes artistiques qui tournent très peu en France, je le répète. Donc voilà, on est assez contents. Il y a même certains spectacles dont c'est les premières en France.
Donc on pourra découvrir dès le début de semaine prochaine. Merci beaucoup, Philippe Macrae.
Merci, merci à vous.
Toute la programmation du festival La Rue est Amiens est à retrouver sur le site du Cirque Jules Verne. Je précise d'ailleurs que c'est gratuit, c'est un festival entièrement
gratuit. Tout est gratuit. Il y a deux spectacles sur réservation, mais c'est gratuit, c'est sur réservation, parce que ce sont des petites jauges, c'est 30 personnes par spectacle, mais ces spectacles se jouent 9 fois pendant le festival, donc on peut réserver directement au Cirque Jules Verne, soit par téléphone, soit par email.
Donc on a retrouvé donc sur toutes les infos sur le site du Cirque Jules Verne, on mettra en podcast de cette émission. Pour terminer cette émission, je vous propose un petit focus sur une des compagnies qui est présente sur le festival, c'est la compagnie Pernette.
Et oui, pour la suite de cette émission, j'ai désormais le plaisir de recevoir Nathalie Pernette, directrice artistique de la compagnie Pernette, qui se produit dans le cadre du festival La Rue est à Amiens. Bonjour à toi.
Bonjour.
Est-ce que pour débuter cet entretien, tu pourrais nous présenter en quelques mots la compagnie Pernette et comment est-elle née ?
Alors, la compagnie Pernette, elle est née en 2001. Elle est née d'une précédente compagnie où nous étions plusieurs, je dirais, têtes pensantes et artistiques qui se sont séparées à un moment de leur vie. Et donc, elle est née aussi des désirs et de cette histoire-là, un désir d'être à la fois dehors et dedans, donc dans les murs des théâtres, mais aussi dans les espaces publics, un désir de rencontrer tous les publics possibles, des plus jeunes aux plus âgés, les personnes handicapées, mais aussi les personnes empêchées, comme en prison, dans l'idée que la danse, elle est vraiment là pour être facteur de rencontre aussi, et puis qu'elle peut être partagée et regardée par tous. Voilà, je crois que c'est la grande définition de la compagnie, c'est celle-là.
Que ce soit ouvert à tous et un moment de partage.
Exactement.
Et du coup, dans le cadre du festival de la rue est à Amiens, tu présenteras donc le spectacle La figure du gisant. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce spectacle, sa création, et puis ce qui t'a inspiré aussi ?
Oui, alors du coup, attends, je vais changer de côté parce que là, je suis à côté d'un truc qui roule et qui fait du bruit. Alors c'est un spectacle qui est né de mon amour pour la pierre et je dirais aussi pour la pierre immobile, mais qu'on dit immobile parce que finalement, je dirais que la plupart des monuments ne sont pas du tout... je dirais si mort que ça, et au contraire, ils sont tous en référence aux vivants et eux-mêmes se désagrègent. J'ai eu donc cette envie de commencer par parler des gisants, donc aussi des morts, donc aussi du souvenir qu'on en a, et donc de faire un peu danser les âmes. Moi, quand j'étais petite fille, mes parents m'emmenaient souvent voir des églises romanes, enfin plein de vestiges, et j'avais un goût particulier pour les cimetières, parce que je trouvais ça... d'une part très reposant, mais en même temps j'y conversais avec ce que je croyais être les personnes qui étaient là présentes sous les dalles. Et il y avait toujours un petit reste d'existence, une fleur, une image, un petit cadeau. Et donc je trouvais que c'était en même temps très beau, un petit peu triste peut-être, mais en tout cas j'ai gardé cette expérience très fortement en moi. Et c'est sur celle-ci que j'ai voulu travailler dans cette pièce pour faire revenir, je dirais, les morts parmi nous, donc faire revivre les gisants, les faire dialoguer avec les vivants, et puis orchestrer et chorégraphier au final des adieux plus définitifs. Voilà.
Dans le spectacle, on retrouve du coup une très forte immobilité au début, c'est ça ?
Oui.
Et puis ensuite, un mouvement qui naît.
Oui, un mouvement qui naît, qui s'amplifie, qui se diversifie, c'est-à-dire que les êtres qui sont un petit peu, je dirais, un petit peu effacés, un petit peu endormis au début, ils deviennent plus familiers, ils essaient de raconter leur histoire par le mouvement et par le texte enregistré, ils essaient d'entrer en relation, alors parfois de manière un peu, je dirais, un peu grotesque ou burlesque ou un petit peu énergique, et parfois de manière plus douce. Donc, ils essaient de continuer de nous parler. Voilà, puisqu'il est dit hein, dans de nombreuses cultures que les morts restent parmi nous un certain temps. Parfois, ils ont même du mal à nous quitter. Parfois, ils ont des messages à nous délivrer. Parfois, ils ont une action à terminer qu'ils n'auraient pas fait de leur vivant. Et donc, c'est tout cela qu'on essaie d'évoquer par cette déambulation dansée.
Au début, l'immobilité, elle donne presque envie de voir naître ce mouvement. Elle crée une certaine impatience, peut-être aussi chez le public.
Oui, alors elle crée une drôle d'impression. C'est-à-dire, c'est l'impression de voir des tombeaux en pleine ville, sur le parvis là d'une église. Donc c'est assez commun. Hein. On a essayé de reproduire cette immobilité des gisants qu'on peut trouver par exemple à la basilique de Saint-Denis où tous les rois de France sont connus. On est aussi, je dirais, enveloppé d'un suaire, enveloppé vraiment d'un tissu qui était normalement là pour envelopper les corps hein, avant de les mettre en terre. Et puis le mouvement vient petit à petit, vraiment par le souffle. C'est-à-dire que ce qui détermine le vivant, c'est le fait de respirer. Et donc la danse naît par là, naît par le fait qu'il y a une respiration qui se met en place, qui s'amplifie, que petit à petit le corps prend vie par les mains, par les pieds, qu'il se relève, qu'il marche, qu'il se débarrasse de son suaire, et puis qu'il renaît d'une certaine manière à la vie.
L'idée, c'est aussi peut-être aussi de venir hanter le lieu.
Oui, on cherche à chaque fois donc à trouver un espace qui est riche d'histoire, en tout cas où on sent qu'il y a du vécu, qu'il y a des expériences, qu'il y a des couches des générations qui ont pu se succéder dans ces endroits-là, et pour leur donner une couleur particulière. Donc là, ça peut être un espace très ancien, enfin très marqué, comme ces parvis d'église où nous serons. Peut-être parfois des espaces plus modernes, mais qui ont aussi eu un vécu particulier, comme les usines, des lieux qui sont un peu entre destruction et renaissance.
Et justement, est-ce que la figure du gisant se porte bien à l'art de rue, aux scènes extérieures ?
Oui, alors elle se porte bien, cette figure. Elle a besoin, nonobstant, elle a besoin d'un endroit un peu de calme et d'intimité, parce que les fantômes ne se montrent généralement aux vivants que dans des endroits un petit peu tranquilles. C'est-à-dire la foule n'est pas forcément leur tasse de thé. Donc là, l'endroit qui a été choisi est parfait. Et puis c'est aussi le moment de la journée. C'est-à-dire il vaut mieux essayer de les faire revivre, de les faire arriver à la tombée de la nuit. Il n'aime pas le soleil de midi, par exemple.
Le mouvement aussi, il est très orchestré par la musique derrière, c'est ça ? On retrouve une ambiance musicale très, très prenante ?
Oui, alors il y a une création musicale hein, de Franck Gervais qui est notre... Alors j'ai encore un autre bruit là qui arrive, je vais aller ailleurs. l'ambiance musicale, oui, c'est... Elle est créée par Franck Gervais, qui est donc le compositeur de la compagnie, et qui a travaillé sur plusieurs, plusieurs pistes qui se sont parfois entremêlées. C'est-à-dire, nous avons écrit des textes, par exemple, de manière un peu, réflexe, hein, l'écriture automatique, sur une biographie imaginaire, sur ce que dirait des morts qui reviennent parmi les vivants, sur des messages à donner. Donc il y a pas mal d'éléments textuels. Et il y a aussi des éléments très rythmiques, comme celui des battements d'un cœur qui s'affolerait et qui finit par porter la danse. Il y a aussi des éléments plus symphoniques, je dirais plus des nappes, un petit peu comme des nappes de brouillard musical qui enveloppent la danse. Et puis, une musique aussi qui clôt le spectacle, de Vivaldi et qui est présente un peu en germe à différents moments du spectacle et que l'on reconnaît, comme si tout à coup on se dit « Ah, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. »
Le vivant.
Voilà, exactement.
La figure du gisant, c'est initialement le premier volet d'un triptyque, c'est ça ?
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Donc j'avais conçu d'ailleurs dès le début le spectacle sous forme de triptyque, enfin en me disant que je prendrais mon temps pour le réaliser. J'ai mis 6 ans pour faire les 3 pièces. Enfin 6 ans officiellement, hein, parce qu'après on fait un petit peu de recherche en amont. Le premier volet, c'était vraiment cette figure-là du gisant, pour parler des tombeaux et des âmes. Le deuxième volet s'appelle la figure du baiser. Elle a été accueillie d'ailleurs à Amiens. Et elle parlait plus de, je dirais, à la fois de la rencontre amoureuse qui peut avoir lieu en espace public, de cette approche vers l'autre au travers des sens, et de ces fameuses statues un peu érotiques, un peu dénudées qu'on peut trouver dans les parcs et jardins en général, hein, qu'on ne remarque d'ailleurs, pour ainsi dire, jamais. Et puis le troisième volet s'appelle la figure de l'érosion, donc qui est plus encore ancrée dans cette histoire de pierre qui disparaît petit à petit, et s'inspire également de toutes les sculptures commémoratives qu'on peut trouver dans les villes, c'est-à-dire les monuments aux morts, mais aussi parfois des monuments qui commémorent un événement lié à la ville, comme les bourgeois de Calais, par exemple, ou bien une figure inconnue et connue en même temps d'une ville, mais que tout le monde a oubliée. Donc, on questionne aussi cette mémoire contemporaine qui s'effrite, tout autant que la pierre des monuments s'effrite également. Et cette idée de la perte, justement, de la mémoire, mais qui est parfois aussi un peu dangereuse. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur quand je peux parler des fois avec des adolescents qui ne savent plus ce que c'est que la Shoah et que ça pourrait recommencer. Ça m'inquiète beaucoup. Donc, je me dis que ce spectacle-là peut peut-être aider à se demander de quoi on se souvient de notre époque qu'on dit contemporaine, c'est-à-dire dont on a des traces vraiment audiovisuelles, des photos, des reportages, des images animées, mais que voilà, dont on ne se sert finalement pas pour mieux imaginer le futur.
Et tu avais déjà du coup ces deux spectacles-là, ils avaient déjà été produits à Amiens.
Oui, la figure de l'érosion a été présentée l'année dernière devant l'Hôtel de Ville, et la figure du baiser 1 ou 2 ans auparavant sur les flancs de la cathédrale. Donc on finit par la première figure cette année, voilà. pour achever le cycle à l'envers.
Et c'est un spectacle à destination de tous les publics ?
Oui, à destination de tous les publics, je dirais peut-être à partir de 8 ans. Je pense pas qu'il est effrayant, mais il est étrange. Enfin, il est étrange et fantastique comme peuvent l'être peut-être toutes les œuvres qui parlent de ces âmes errantes, voilà, de ces fantômes.
Et et combien de temps il dure ce spectacle ?
Alors, il dure, selon les cas, entre 1h et 1h15, puisqu'il y a plusieurs stations. C'est-à-dire, on commence sur le parvis d'une église, on termine sur le parvis de l'église, on fait un cycle, mais on passe par un mur, un jardin. Enfin, voilà, il y a à peu près 6 séquences dans 3 lieux différents. Donc, on se balade un petit peu dans le quartier.
Ben, merci à toi, Nathalie.
Merci à toi aussi. Et puis à très bientôt.
La compagnie Pernette vous invite donc dans une danse entre deux mondes durant le festival de la Rueta Amiens qui débute à partir de lundi 5 juillet. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce spectacle et sur le reste de la programmation, je vous donne rendez-vous sur le site internet cirquejulesverne.fr. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain à midi 18h avec Myriam et la compagnie Artstop.